Chapitre 5. Tu as entendu hurler des loups ? Demanda Richard, une étrange lueur dans le regard.
Non, un seul. C'est ça, il n'y en avait qu'un.
Kara, Nietzsche et Victor attendirent pendant que le sourcier réfléchissait, comme s'il essayait encore et toujours d'emboîter correctement les pièces d'un puzzle géant. Nietzsche jeta un coup d'œil aux hommes qui patientaient toujours sous leur arbre. Certains bâillaient, d'autres s'étaient assis sur un tronc abattu, et quelques-uns conversaient à voix basse. D'autres encore, les bras croisés, sondaient les environs pour passer le temps.
« Ce n'est donc pas arrivé ce matin, » murmura Richard. « Quand je me suis réveillé, je me croyais revenu au jour où Callan a disparu. »«
Le jour de la bataille, »
corrigea Nietzsche sans avoir l'air d'y toucher. Si Richard l'entendit, il ne fit pas grand cas de sa remarque.
Pour une raison qui m'échappe, je me suis souvenu de ce qui est arrivé ce matin-là.
Il prit le bras de Nietzsche. Pendant qu'on me transportait jusqu'à la ferme, un coq a chanté, n'est-ce pas ? Surprise par ce changement de sujet et ne voyant pas en quoi c'était important, Nietzsche soupira.
C'est possible, oui. Franchement, ça ne m'a pas frappé, pourquoi cette question ?
Il n'y avait pas de vent. Quand j'ai entendu le coq, j'ai levé les yeux et vu que les branches des arbres ne bougeaient pas. Même les feuilles étaient immobiles, il n'y avait même pas un courant d'air.
« Vous avez raison, seigneur Hall, » dit Kara. « La fumée du feu de camp de Victor montait en droite ligne vers le ciel, rien ne la faisait onduler. Je crois même que c'est pour ça que j'ai si bien entendu les échos de la bataille. Dans un silence total, on ne pouvait pas les rater.
« Si ça peut être utile, » dit Victor à Richard. « Nous avons dérangé des volailles en arrivant devant la ferme. Il y avait bien un coq et... il y allait de son cocorico. Pour tout te dire, nous étions décidés à ne pas nous faire repérer afin que Nietzsche puisse te soigner. Le coq risquant d'attirer l'attention de nos ennemis, j'ai ordonné à un homme de lui couper le cou. »
Dès que Victor eut fini son rapport, Richard se replongea dans ses pensées. Se tapotant distraitement la lèvre inférieure, il devait sans doute essayer d'intégrer à l'ensemble cette nouvelle pièce du puzzle.
Alors, ta conclusion ?
Lui demanda Nietzsche quand elle eut l'impression qu'il avait oublié jusqu'à la présence de ses amis. Le sourcier cligna des yeux puis la regarda.
Ce matin, je me suis cru revenu 3 jours en arrière.
Pourquoi, d'après toi ?
Parce que quelque chose cloche dans tout ça.
C'est un phénomène fréquent. On se souvient d'un événement à cause de sa bizarrerie.
Quelle bizarrerie ?
Le vent. Il n'y en avait pas ce matin-là. Pourtant, en me réveillant, alors que l'aube pointait à peine, j'ai vu les branches des arbres bouger comme si la brise les agitait.
Perturbé par la soudaine obsession de Richard, le vent, Nietzsche commençait également à se faire du souci pour sa santé mentale.
« Tu venais de te réveiller, et il faisait encore sombre. Tu as cru voir bouger les branches. »
« Peut-être, » lâcha le sourcier.
« Ou c'étaient les soldats ennemis qui les écartaient ?»
avança Kara.
« Non, eux, je les ai repérés un peu plus tard, après avoir découvert l'absence de Callan. »
Voyant que Victor et Kara n'avaient pas l'intention de rappeler à Richard qu'ils n'étaient pas mariés, Nietzsche décida de les imiter. Comme s'il venait enfin de reconstituer son maudit puzzle, Richard se tourna vers ses 3 amis, l'air mortellement sérieux.
« J'ai quelque chose à vous montrer. Mais d'abord une précision. Même si ça ne vous dit rien, ne perdez pas de vue que je sais de quoi je parle. Il ne s'agit pas de me croire aveuglément, bien entendu. Cela dit, j'ai dans ce domaine une vie entière d'expérience. Quand il est question de vos spécialités, je me fie à vous. Là, nous sommes dans la mienne, alors ne refusez pas de voir ce qui me saute aux yeux. »
Nietzsche, Kara et Victor se regardèrent pensivement. Puis, le forgeron jeta ses doutes aux orties. Après avoir acquiescé à l'attention de Richard, il se tourna vers ses hommes.
« Gardez les yeux bien ouverts, les gars. Il peut y avoir des ennemis partout, alors soyez discrets et vigilants. Je veux des sentinelles aux 4 points cardinaux. Ferrand, va inspecter le terrain devant nous. »
Plusieurs hommes se levèrent, heureux d'avoir enfin quelque chose à faire. 4 d'entre eux se postèrent sur le périmètre de la clairière pour balayer toute la zone. Ferrand confia son paquetage à un camarade, encocha une flèche sur son arc et se dirigea vers les broussailles. Ce jeune homme apprenait les subtilités du commerce des métaux sous la tutelle de Victor. Élevé dans une ferme, il avait des dons naturels d'éclaireur. Ferrand admirait son maître. C'était visible à chaque instant. Victor aimait bien ce jeune homme. Nietzsche l'avait deviné sans peine, mais cette affection le poussait à être encore plus exigeant que d'habitude avec lui. Quand elle l'avait interrogé sur sa dureté vis-à-vis de ses apprentis, le forgeron lui avait fourni une réponse imagée. Pour créer un objet de valeur, il fallait éliminer toutes les imperfections d'un métal et ne pas hésiter à frapper fort pour lui donner la forme qu'on souhaitait. Depuis la bataille, Victor avait organisé des gardes jour et nuit, Ferrand et quelques autres hommes sillonnant sans cesse le terrain. Pas question que des soldats adverses déboulent alors que Nietzsche luttait pour sauver la vie de Richard. Après s'être occupé du sourcier, la magicienne avait soigné la blessure à la jambe d'un résistant et les plaies moins graves d'une demi-douzaine d'autres. En 3 jours, elle avait très peu dormi et elle se sentait épuisée. Après avoir regardé ses hommes prendre leur poste, Victor tapota l'épaule de Richard. « Allons-y !» Le sourcier guida ses 3 compagnons au-delà du charnier, puis s'enfonça dans la forêt en suivant une piste très praticable qui serpentait entre les arbres. Au sommet d'une petite butte, il s'arrêta et s'accroupit. Agenouillé ainsi, dans sa tenue de sorcier de guerre, avec son épée au côté et un arc accroché à l'épaule, Richard avait l'allure d'un roi, mais d'un roi guerrier. En même temps, il ressemblait au modeste guide forestier qu'il était jadis. Lorsqu'il touchait les aiguilles de pin, les brindilles, les feuilles, l'écorce ou la mousse, il semblait retrouver de vieux amis. Aux yeux de Nietzsche, tout ce qui était lié à la nature restait assez simple et un rien ennuyeux, mais Richard y voyait bien autre chose, les manifestations d'un monde résolument à part. Se souvenant qu'il n'était pas seul, il fit signe à ses compagnons de s'accroupir près de lui. « Là, » dit-il, « vous voyez ?» D'un index, il suivit les contours d'une empreinte de pas. « C'est la piste de Kara. »
« Rien d'étonnant, » dit la mort de Sitte. « C'est le chemin que nous avons suivi pour aller de la route à la clairière. »«
Exact, » fit Richard. Il désigna d'autres empreintes. « Ce sont également tes traces. Tu vois comment elles sont orientées ?» On devine facilement où tu allais, non ?
On dirait, oui,
répondit Kara, soupçonneuse. Richard se déplaça vers la droite et ses amis le suivirent. Là encore, il laissa courir un index le long d'une empreinte pour creuser un peu le sol et la rendre plus aisément visible. Quand il faisait ça, la forme d'un pied semblait apparaître, comme par magie, sur le sol. Nietzsche eut très vite une idée sur le propriétaire de ces traces.
« C'est ma piste, » dit Richard. « Selon les endroits, la pluie efface plus ou moins rapidement les empreintes, mais là, nous avons de la chance. »
Il saisit entre le pouce et l'index une feuille de chêne qu'il avait écrasée en marchant.
« Vous voyez ce que ma botte a fait à cette feuille ? Elle est tout à fait plate et ses nervures sont écrabouillées. La pluie ne peut pas faire disparaître des indices de ce genre. »
Richard regarda ses compagnons pour être sûr qu'ils l'écoutaient, puis il tendit un bras vers la forêt obscure, devant lui.
« Mes pas suivent la même direction que ceux de Kara. Ils viennent vers nous, vous êtes bien d'accord ?»
Il se déplaça un peu et fit apparaître 2 nouvelles empreintes pour étayer sa démonstration.
« On les voit toujours, vous le constatez ?»«
Oui, » fit Victor. « Mais où veux-tu en venir ?»
Richard désigna successivement les 2 séries de traces.
« Vous voyez la distance qui sépare ma piste de celle de Kara ? Lorsque nous marchions, j'étais sur le côté gauche du sentier et Kara se tenait sur ma droite. Vous voyez que nous étions loin l'un de l'autre. »«
Et après ?» demanda Nietzsche.
Transie de froid, elle releva sa capuche et glissa les mains sous son manteau.
« Nous marchions si loin l'un de l'autre parce que Kalan avançait entre nous, » dit Richard.
Nietzsche étudia le sol. N'étant pas une experte, elle trouva assez normal de ne pas distinguer une 3e série d'empreintes. Mais elle doutait que Richard lui-même y parvienne ce coup-ci.
« Tu peux nous montrer les traces de Kalan ? »
demanda-t-elle à Richard. Le sourcier leva la tête et regarda son ami, qui eut le souffle coupé par l'intensité de son regard halluciné.
« C'est tout le problème, »
Richard leva un index avec autant de majesté que s'il dégainait son épée.
Les empreintes de ma femme ont disparu. Elles n'ont pas été effacées par la pluie, non. On jurerait qu'elles n'ont jamais existé.
Victor ne put réprimer un soupir qui en disait long sur sa consternation. Kara parvint à cacher son trouble et Nietzsche, certaine que Richard n'en avait pas encore terminé, préféra opter pour une approche prudente.
« Tu voulais nous montrer qu'il n'y a pas d'empreinte de cette femme ?»«
C'est ça, oui. J'ai trouvé les miennes et celles de Kara, mais il n'y a rien là où est passé Callan. »
Un long silence gêné suivit cette étrange déclaration. Nietzsche prit finalement sur elle de briser le charme.
« Richard, tu dois savoir pourquoi il en est ainsi. Ne comprends-tu pas? C'était un rêve. Il n'y a pas de piste parce que Kala n'existe pas. »
Lorsque le sourcier releva les yeux, Nietzsche crut un instant qu'elle pouvait voir jusqu'au fond de son âme. Elle aurait donné n'importe quoi pour réconforter cet homme si cher à son cœur. Mais le rassurer en lui mentant aurait été criminel.
« Tu es un grand éclaireur, et tu ne parviens pas à trouver les empreintes de cette femme. N'est-ce pas suffisant pour clore le débat? Nous tenons la preuve que ton épouse n'existe pas et qu'elle n'a jamais arpenté ce monde. »
Nietzsche sortit une main de sous son manteau et la posa sur l'épaule du sourcier.
« Tu dois renoncer à ton songe, mon ami. »
« Tu simplifies trop les choses, Nietzsche. Je vous demande de regarder et d'essayer de comprendre ce que ça signifie. Pour que Kara et moi ayons été si loin l'un de l'autre, il fallait qu'une troisième personne marche entre nous. »
Nietzsche frotta ses yeux gonflés de sommeil.
« Les gens ne marchent pas toujours côte à côte, voyons. Kara surveillait peut-être un côté de la piste et toi l'autre. » Ou vous étiez trop fatigué pour parler, que sais-je, moi, il y a des dizaines d'explications très simples. Quand deux personnes se déplacent, elles ne s'éloignent pas autant l'une de l'autre.
Richard jeta un coup d'œil derrière lui.
Regarde les empreintes que nous avons laissées en venant. Kara était sur ma droite, comme l'autre jour, et elle avançait très près de moi. C'est normal quand deux personnes se déplacent de front. Victor et toi étiez derrière nous. Constate-le par toi-même, vous vous teniez côte à côte. La piste d'il y a 3 jours est différente. Parce qu'il y avait une troisième personne, bien entendu.
Richard.
Nietzsche s'interrompit, car elle ne voulait pas se disputer avec le sourcier. Au fond de son cœur, elle avait envie de lui ficher la paix. S'il désirait croire à un rêve, pourquoi l'en empêcher? Le monde réel était si triste, si vide. Mais pouvait-on se taire, alimenter un mensonge et laisser un homme vivre dans l'illusion? Même si elle comprenait la détresse de Richard et se serait volontiers faite sa complice, Nietzsche ne devait pas lui permettre de croire à un fantasme. S'il ne faisait pas face à la réalité, il ne guérirait jamais vraiment, c'était évident. Pour l'aider, il fallait le faire souffrir, il n'y avait pas d'autre solution.
« Richard, »
dit-elle, cherchant à briser le fantasme sans se montrer dure ni condescendante.
« On voit tes empreintes et celles de Kara. Tu nous les as montrées et il n'y en a pas d'autres, c'est toi-même qui le dis. Si une femme marchait entre vous, pourquoi n'a-t-elle laissé aucune trace ?»
De plus en plus gelés, Kara, Victor et Nietzsche attendirent que Richard consente à répondre.
« Je pense que la piste de Callan a été effacée en recourant à la magie. »
« La magie ?»
répéta Kara, révulsée par ce simple mot.
« Oui. Le ravisseur de Callan a fait disparaître ses traces avec un sortilège. »
Nietzsche n'en crut pas ses oreilles et elle ne fit aucun effort pour le cacher.
« C'est possible ?»
demanda Victor, déboussolé.
« Oui, »
affirma Richard.
« Quand j'ai rencontré Callan, Darkenral la poursuivait. Zed, ma future femme et moi, avons dû fuir le plus vite possible. Face à Darkenral, la magie de Zed n'aurait pas fait le poids, donc, afin d'éviter un duel, il a jeté un sort pour faire disparaître nos traces. Voilà ce qui s'est passé il y a 3 jours. On a éradiqué par magie la piste de Callan.
Victor et Kara interrogèrent Nietzsche du regard.
Le forgeron ne savait rien du pouvoir et c'était bien normal. Quant aux morts de Sith, elles abominaient la magie et refusaient de s'y intéresser.
Leur instinct les poussait à neutraliser tout individu doté de pouvoir qui semblait menacer le seigneur Hall, et ça leur suffisait. Nietzsche était une magicienne, d'où l'importance de son opinion sur l'affaire des empreintes. Mais elle était loin de tout savoir sur le don et elle hésitait. Pourtant, elle devait se jeter à l'eau.
« C'est possible en théorie, » dit-elle. « Mais je n'ai jamais entendu parler d'un sortilège spécifique. »
Nietzsche se força à regarder Richard dans les yeux.
« Cela posé, il y a une explication plus simple et nous la connaissons tous. »
Le sourcier ne put pas dissimuler sa déception, mais il ne baissa pas les bras.
« Pour des néophytes en matière de pistes, » déclara-t-il, « je comprends qu'il soit difficile de me croire, mais je peux vous montrer une autre preuve qui vous aidera à mieux saisir la situation. Suivez-moi. »
« Seigneur Hall, » dit Kara en évitant de croiser le regard de son maître, « ne devrions-nous pas revenir à des affaires plus urgentes ?»«
J'ai quelque chose d'important à vous montrer à tous les trois. Dois-je comprendre que tu préfères attendre ici pendant que j'emmène Nietzsche et Victor sur les lieux ?»«
Non, bien sûr que non.
Dans ce cas, en route. »
Sans protester, Nietzsche, Kara et Victor suivirent Richard, qui s'enfonça dans la forêt et marcha à grands pas vers le nord. À un moment, ils durent jouer les équilibristes sur des pierres pour traverser un torrent aux eaux noires au fond d'un large ravin. Quand Nietzsche faillit glisser, Richard la rattrapa, lui prit la main et l'aida à atteindre l'autre berge. La paume du sourcier était chaude mais pas brûlante de fièvre. Nietzsche aurait aimé qu'il ralentisse un peu, histoire de se ménager, mais il n'en manifestait pas l'intention. De l'autre côté du torrent, l'ascension se révéla vite plus ardue que prévu. Sous un ciel de plus en plus gris et avec le brouillard qui s'était levé, on aurait pu croire que la nuit approchait, mais il ne devait même pas être midi. Dérangés par les intrus, des oiseaux s'envolèrent de la cime des arbres, prirent de l'altitude et disparurent très vite au milieu des nuages. En permanence, des cris d'animaux inconnus montaient des broussailles et se répercutaient dans toute la forêt. Avec les branches entrelacées des épicéas et des pins, sans parler des rideaux de lianes qui tombaient de chênes géants ratatinés au tronc couvert de mousse, la visibilité était très mauvaise, sauf peut-être à ras du sol, aux endroits rares que les rayons du soleil parvenaient à atteindre. Alors que les quatre intrus approchaient du cœur de la forêt, la végétation se fit moins touffue. Ici, les troncs noirs des arbres ressemblaient à des sentinelles solitaires, résolus à ne pas quitter leur poste face à une horde d'envahisseurs. Richard guida ses compagnons jusqu'à une piste confortablement large et au sol tapissé d'aiguilles de pin. Dans ces conditions, la randonnée devint plus agréable, même si la pénombre ne se dissipa jamais. Par les plus belles journées d'été, songea Nietzsche, la lumière ne devait pas souvent réchauffer le sol de cette forêt. Quand on longeait la piste, il fallait plisser les yeux pour y voir à 20 pas devant soi. Sur les côtés du chemin, où des buissons et de jeunes conifères se disputaient sans pitié l'espace vital, il faisait sûrement aussi sombre qu'en pleine nuit. Richard s'arrêta enfin et tendit les deux bras sur le côté afin qu'aucun de ses compagnons ne le dépasse. Puis, il leur fit signe de s'agenouiller en même temps que lui. Derrière nous, comme vous le savez, il y a la piste que Kara, Kalan et moi avons suivie avant de dresser notre camp la veille de la bataille. Cette nuit-là, ma femme a pris le premier tour de garde, moi le deuxième et Kara le troisième. J'ai trouvé autour du camp des traces de mon passage et de celui de Kara, mais pas une seule de la garde de Kalan. D'un regard, Richard dissuada ses amis de lui resservir un discours sur le rêve et les fantasmes. Les soldats de l'ordre sont arrivés par là. « Victor, tes hommes et toi veniez de la direction opposée quand vous vous êtes mêlés à la bagarre. Presque au même endroit, on trouve les empreintes que vous avez laissées en me portant jusqu'à la ferme. Au-delà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on relève les traces des soldats qui ont découvert le charnier. La piste que nous suivons n'a été empruntée par personne. Si vous regardez bien, vous ne verrez aucune empreinte, à part les miennes, qui datent de ce matin. Si on se fie aux indices, nul n'est venu ici depuis très longtemps. » On pourrait même croire que je suis le premier à avoir exploré cette partie de la forêt.
« Et tu as des raisons de penser que c'est faux ?» demanda Victor.
« Oui. Même s'il n'y a pas de traces, quelqu'un est passé par ici. Et cette personne a semé des preuves dans son sillage.
Richard se pencha et posa le bout d'un index sur une pierre lisse à peu près de la taille d'une miche de pain. En passant, Callan a trébuché sur cette pierre.
« Comment le sais-tu ? »
demanda Victor, captivé par le discours du sourcier.
« Regarde les marques sur la pierre. Allez, penche-toi. »
« Tu vois la partie du haut qui est depuis toujours exposée à l'air et aux intempéries ? Il y a des taches brunes laissées par du lichen et la pierre est jaune clair. Soudain, exactement comme sous la ligne de flottaison d'un bateau, la couleur change pour passer à un marron soutenu. C'est très régulier sur toute la circonférence. À partir de là, le ventre de la pierre, si j'ose dire, était enfoui dans la terre. Comme tu peux le constater, il ne l'est plus. En tout cas, plus entièrement, sinon on ne verrait pas la zone marron. Regarde mieux. Tu vois bien que la pierre est inclinée, comme si elle voulait exposer son torse au soleil. Quelqu'un l'a délogée de son nid dans la terre, et c'est très récent, sinon on trouverait du lichen sous la ligne de flottaison, et la couleur serait déjà plus pâle. Crois-moi, cette pierre était encore en terre il y a 3 jours. Tous les trois, examinez le sol du côté droit de la pierre. Il y a un vide entre la cavité, nettement visible ici, et le contour de l'objet qu'elle contenait. Et de l'autre côté, ce petit monticule de terre, de brindilles et de minuscules cailloux témoigne que le sol a été légèrement retourné de l'intérieur. La configuration de la cavité et du monticule nous indique que la personne qui a trébuché s'éloignait de notre camp et filait vers le nord.
« Mais où sont ces empreintes de pas dans ce cas ?»
demanda Victor. Richard passa une main dans ses cheveux humides. « Elles ont été effacées par un sortilège. Regardez de nouveau la pierre. Elle a été déplacée, c'est incontestable. Mais voyez-vous une quelconque marque ? Une entaille ? Une botte n'aurait pas pu déloger de terre une si grosse pierre sans y laisser une trace. Cette trace a donc été effacée. Là encore, l'intervention de la magie est la seule explication.
« Richard, »
dit Nietzsche en abaissant sa capuche,
« tu détournes tout ce que tu vois pour étayer ce que tu as envie de croire. Mais on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si la magie a effacé une piste, pourquoi as-tu pu trouver ce que tu appelles un indice ?»«
Parce que le sortilège efface seulement les empreintes de pas. La personne qui l'a lancé ne sait sûrement pas grand-chose du métier d'éclaireur. À mon avis, elle n'est même pas très familière de la nature. » Du moins, pas assez pour penser à remettre les pierres en place.
« Richard, tu devrais... Bon sang, regardez autour de vous! Le sol de cette forêt est parfait, vous ne l'avez pas remarqué ?»«
Que veux-tu dire ?»
demanda Victor.
« Il est trop parfait. Les brindilles, les feuilles et les morceaux d'écorce sont trop bien rangés. La nature n'est pas si ordonnée. »
Nietzsche, Victor et Kara examinèrent le sol. L'ancienne maîtresse de la mort le trouva d'une banalité à pleurer. Des brindilles, des aiguilles de pin, une petite branche et d'autres minuscules choses inconnues reposaient sur un lit de feuilles mortes, de mousse et d'éclats d'écorce. Même si Nietzsche n'avait pas la prétention d'être une femme des bois, Richard laissait des entailles dans les arbres quand il voulait qu'elle le suive dans une forêt, elle ne voyait aucun indice du passage de quelqu'un. Et la perfection inhabituelle lui semblait être une vue de l'esprit pour rester polie. Elle regarda ailleurs et arriva aux mêmes conclusions. À côté d'elle, Kara et Victor paraissaient franchement perplexes.
« Richard, je suis sûr qu'il existe des dizaines d'explications possibles à la mésaventure de ta pierre. Ton hypothèse se tient, je te le concède, mais il peut s'agir aussi d'un élan ou d'un cerf dont les empreintes ont été effacées par le temps et la pluie. »
Le sourcier secoua lentement la tête. « Regarde les bords de la cavité. Ils sont encore très réguliers, parfaitement formés. Au fil du temps, surtout quand il pleut régulièrement, le trou est obstrué et ses bords s'effondrent plus ou moins. La piste d'un élan ou d'un cerf devrait être récente, sinon rien ne colle. » De plus, un sabot aurait laissé une marque, exactement comme une botte. Je maintiens que quelqu'un a trébuché sur cette pierre il y a 3 jours.
Tu vois cette branche morte là-bas ? Elle a pu tomber sur la pierre et la déloger.
Si c'était le cas, il y aurait une trace de l'impact sur la partie claire couverte de lichen,
et on retrouverait une entaille correspondante sur la branche. Il n'y en a pas, j'ai regardé.
Et un écureuil qui aurait sauté d'un arbre pour atterrir sur la pierre ?
Proposa Kara.
Un écureuil ne serait pas assez lourd pour ébranler une si grosse pierre.
Si je comprends bien,
résuma Nietzsche,
l'absence d'empreinte de cette femme est pour toi la preuve irréfutable de son existence. Si tu pars de ce principe, tu pourras nous démontrer tout et n'importe quoi.
Tu caricatures mon raisonnement. Nietzsche, je ne veux pas vous imposer un postulat absurde. Au contraire, je mets dans leur contexte des éléments incontestables qui tissent un réseau de preuves.
Nietzsche plaqua les poings sur ses hanches. Des affaires urgentes devaient être réglées, et le temps leur coulait entre les doigts. Au lieu de prendre des décisions cruciales, ils marchaient à quatre pattes dans une forêt pour étudier une pierre sous toutes ses coutures. La magicienne sentit qu'elle s'empourprait.
« C'est ridicule, Richard. Tu nous as surtout démontré que cette femme est imaginaire, rien de plus. Elle n'existe pas. C'est pour ça qu'elle ne laisse pas de traces. C'est un rêve. Il n'y a rien de mystérieux ni de magique dans cette affaire. Un simple rêve. »
Richard se releva d'un bond. En une fraction de seconde, le paisible guide forestier était redevenu un chef de guerre puissant, imposant et sans pitié lorsqu'il cédait à la colère. Il n'affronta pas Nietzsche. Préférant la dépasser et faire quelques pas sur le chemin du retour, puis il s'arrêta et sonda de nouveau la forêt.
« Quelque chose ne va pas »
lâcha-t-il. La gielle de Kara vola jusqu'à sa paume et Victor posa la main sur le manche de la masse d'armes glissée à sa ceinture. Dans le lointain, de là où il venait, Nietzsche entendit des croassements de corbeaux. Les cris qui leur firent écho étaient à peine humains.